France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le noir est la couleur qui, comme on sait, les absorbe toutes. C'est la couleur de l'encre qui écrit et autorise les contrastes lumineux les plus violents. Le noir est la couleur favorite de Pierre Soulages. Pour lui, la lumière vient du noir. C'est la couleur d'origine de la peinture. Pierre Soulages a même inventé une notion qui définit sa trouvaille picturale et sa technique, l'outre-noir. Ce qui lui importe, c'est la réflexion de la lumière transformée, transmutée, et dont le noir est le vecteur, le support et l'analogie. En 2009, pour préciser sa pensée, Pierre Soulages publiait chez Hermann ses écrits et propos recueillis par Jean-Michel Lelanoux. Et en 2010, il vint en parler dans deux émissions d'Alain Weinstein, du jour au lendemain. Écoutez.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pierre Soulages. Alors que la rétrospective Soulages est présentée au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 8 mars, paraissent chez Hermann ses écrits et propos, un choix de textes et d'entretiens recueillis par Jean-Michel Lelanoux. C'est l'occasion d'une rencontre en deux volets diffusée dans Du jour au lendemain, ce soir et demain soir. Écrits et propos, Pierre Soulages. Un gros livre, plein de textes.
Oui.
On se rend compte que vous n'êtes pas seulement peintre, alors vous êtes un peu écrivain.
Ah, pas du tout. Non, je réponds à des questions. Je n'écris pas. Je suis amené à répondre à des questions. Autrement, j'avais toujours dit que ma peinture devait se suffire à elle-même. Je n'ai jamais voulu parler de ma peinture, mais j'y étais amené, obligé, à cause des questions qu'on me posait, ou à cause des interprétations que l'on faisait devant moi, et que je trouvais par trop distante de ce que je fais. Alors à ce moment-là, j'ai été amené à préciser. Et puis il y a aussi les premiers écrits que j'ai eus, c'était une demande express de l'organisateur d'une exposition, qui est ma première exposition à l'étranger, une exposition qui s'appelait, excusez mon allemand, je ne parle pas allemand, mais elle s'appelait Große Ausstellung Französischer Abstrakte Malerei. Et c'est là où j'ai été amené à dire un certain nombre de choses qui n'ont pas été toujours comprises, parce que je me mettais à l'écart à ce moment-là de ce qu'on pouvait appeler l'expressionnisme abstrait, où l'on n'hésitait pas à me classer. Alors j'ai été amené à dire ce que je pensais, qui n'était pas du tout dans le sens où du groupe d'artistes auquel on m'assimilait.
Il vous faut des questions pour réfléchir à ce que vous faites, des questions que d'autres vous posent ou des questions que vous vous posez vous-même?
J'essaie de comprendre ce que je fais, mais au départ, ça ne vient pas d'une. Ce que je fais ne vient pas d'une réponse à une question. Je travaille d'abord, je fais la peinture, pris par un désir, par un genre de besoin interne. J'essaie de comprendre pourquoi. Quelquefois, je trouve des raisons. Puis je m'aperçois qu'elles sont mauvaises. C'est comme ça, d'ailleurs, que lorsque, à ma première exposition, j'ai vu un accrochage de mes peintures fait par quelqu'un d'autre que moi, j'ai eu la révélation que tout ce que j'imaginais de ce que j'avais fait, ben, c'était pas très bien. c'était à revoir. Alors la première fois que j'ai exprimé quelque chose par écrit, c'était dans ce catalogue de cette exposition allemande, où j'étais là avec Kupka, Herbin, Domela, Delmarle, Francis Bott, j'aurais dû dire Francis Bott d'abord, et puis Hartung, Schneider, moi, on était une dizaine. Et on m'a demandé d'écrire ce que je pensais de la peinture. J'ai été amené à préciser. C'était un besoin que je sentais de dire ce que j'avais à dire. Et j'écrivais alors à ce moment-là qu'une peinture est une organisation de formes et de couleurs, ça tout le monde l'a dit. Mais j'ajoutais sur laquelle viennent se faire et se défaire les sens qu'on lui prête. Marquant par là qu'il ne s'agissait pas de trouver un équivalent d'une émotion, d'un sentiment, de tout ce que, ni une communication. Puisque les sens qui font et se défont, ça appartient à celui qui regarde. C'est déjà une position très différente de celle qui était en cours à ce moment-là.
Quand vous faites quelque chose, alors, vous le faites presque les yeux fermés, sans savoir ce que vous faites.
Alors, les yeux très ouverts. Mais les réactions qui arrivent ne sont pas toutes conscientes. Ce sont des impulsions, des besoins qui se traduisent par une forme, laquelle forme n'est pas ce que je voulais. Mais laquelle forme et laquelle tâche contient en elle ce que je n'imaginais pas. Et à ce moment-là, je puise là, quelquefois, le désir d'intensifier ce que j'ai aperçu ou entreaperçu, d'intensifier. Oui. Et je continue. Et puis ça évolue. Et puis ça tourne court. Et puis j'arrête. Et j'efface tout. Mais quelquefois, ça aboutit à quelque chose que j'accepte. Alors je mets la toile contre un mur, et une semaine après, je la regarde. Et si j'y trouve quelque chose qui est encore vivant, enfin qui vit pour moi en tout cas, comme premier spectateur, alors je me dis, tiens, cette toile pourra sortir. Et quand j'en suis sûr, quand je l'ai une fois ou deux, alors à ce moment-là, je l'ai sortir de l'atelier. Sinon, je la garde, ou je la détends, je la fais détendre, et je la brûle. Je garde le châssis quand même. Mais ça se passe comme ça. Alors évidemment, j'essaie de savoir ce que je ressens quand je regarde ce que je viens de faire. Mais je suis un spectateur pas tout à fait comme un autre, puisque je suis compromis dans ce que j'ai plus ou moins connu, ou quand je regarde, en grande partie oublié. Mais c'est comme ça que j'avance et que ma peinture évolue.
Il y a le regard sur la peinture une fois qu'elle est faite,
oui,
et que la toile est posée contre le mur, mais en cours d'exécution. Ah, vous avez un regard sur ce que vous faites
sans arrêt. C'est un rapport entre ce qui se passe sur la toile, ce que j'en éprouve, et l'envie qui naît de là. C'est comme ça que ça marche. Il y a un certain nombre de choses que je sais. Je sais que ça ne va pas ressembler à Matisse. Je sais que... C'est tout. Je sais que... Je prends les couleurs que j'aime. En 47, c'était des couleurs sombres. Toujours, d'ailleurs. On ne peut pas dire. Puis un beau jour, j'ai découvert ce qu'on a appelé noir-lumière, que j'ai appelé outre-noir. Mais ce qui était intéressant, c'est la manière dont ça a été reçu au départ. Ça n'a pas été connu. Je suis arrivé à Montpellier, je suis arrivé à Paris en 46. Alors là, j'avais des choses abstraites que j'ai essayé d'exposer naïvement, provincialement, m'a-t-on dit, au Salon d'automne. Et le Salon d'automne ne m'a pas accepté. Je suis reparti, un peu contrit. Et là, au retour à Montpellier, je suis allé voir un homme très sympathique qui s'appelait le docteur Bonnet, qui avait offert, qui était en vérité un médecin qui ne pratiquait pas la médecine, et qui avait ouvert une galerie pendant la guerre. Et j'avais eu des relations avec lui sympathiques pendant la guerre, où je vivais avec de faux papiers comme viticulteur. Et alors, quand je suis parti à Paris, je suis allé lui dire au revoir. Et puis, comme j'étais de retour à Montpellier après mon échec au Salon d'automne, il m'a dit, écoutez, j'ai un certain nombre. Vous vous souvenez de ce peintre que j'avais exposé pendant la guerre, qui s'appelait Frabeau? Je lui ai dit, oui, très bien. C'est un peintre qui était un peu surréaliste, mais abstrait surréaliste, enfin, entre les deux. Alors, je me souviens très bien. Écoutez, j'ai des toiles de lui, là, que je n'ose pas lui envoyer, les transports sont difficiles. Je les détache du châssis, je les mets dans un carton, vous ne pourriez pas aller lui rendre? Mais c'est avec plaisir, je dis, bien sûr. Je suis allé trouver Francis Bott, qui sur ma mine, m'a pris pour un collectionneur, parce que j'étais sagement habillé, une cravate. Et quand je lui ai apporté, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous aimeriez voir mes œuvres récentes? J'ai compris qu'il se trompait. Je lui ai avoué tout de suite que j'étais peintre. Et devant la déception qu'il a eue, il s'est senti obligé de me dire « Mais j'aimerais voir ce que vous faites ». Il est venu voir ce que je faisais. J'habitais Courbevoie, dans un petit meublé que j'avais trouvé, à grand-peine d'ailleurs, à l'époque. Et il voit ce que je fais, il me dit « Ah, mais vous savez, vous n'y êtes pas. Le moment est à une synthèse entre surréalisme et l'abstraction. Ce que vous faites est abstrait, c'est pas ça ». Alors je dis oui, mais moi je crois pas à ce genre de synthèse. Oui, mais, et puis j'ai avoué que j'avais été refusé au Salon d'automne. Il m'a dit, il fait un rire, mais vous n'y êtes pas le Salon d'automne. Mais qu'allez-vous faire là? Ça n'a rien à voir. Mais, vous n'êtes pas. Il faut exposer au Salon des surindépendants. Pardon? Dis, oui, mais, des indépendants. Je dis, non, des surindépendants. C'est un salon sans jury. Ah. Et il a ajouté, c'est là que nous sommes tous. Je lui ai dit, mais comment fait-on? Écoutez, on paye une somme modique. Il m'a pas dit modique, d'ailleurs. Il m'a dit la somme, je ne m'en souviens plus, mais c'était modique. Et nous avons 3 mètres de cimaise. Et on fait ce qu'on veut. Je lui ai dit, mais magnifique. Alors, il m'a donné les coordonnées, je me suis inscrit. Il y avait une règle, quand même, dans ce salon. C'est qu'à partir du moment où on exposait dans ce salon, on n'avait plus le droit d'exposer ailleurs. Et que si par hasard on commettait, on allait un exposé ailleurs, on était radié à vie. Alors j'ai accepté la règle. Et là, ça a été les débuts. Je suis arrivé avec mes toiles sous le bras. Je regardais autour de moi. Il y avait des choses ahurissantes. Ahurissantes pour moi. Des choses que j'ai connues. Par la suite, il y avait Clovis Trouille, il y avait toutes sortes de choses très éloignées de ce que je pensais. Et puis, comme mes toiles étaient en vue, je les ai déposées. Deux garçons sont approchés de moi, et avec un accent espagnol énorme, ce qui m'a rassuré, je ne vous cache pas, parce que j'arrivais de province et les Parisiens me terrifiaient. Et ces Espagnols, avec leur accent, ça m'a paru plus proche de moi, plus fraternel que d'autres. Et ils m'ont dit, c'est toi qui fais ça? Ben, j'ai dit, oui. Ben, regarde ce que nous faisons, nous. J'ai regardé ce qu'ils faisaient, c'était des natures mortes. Des très bons peintres, j'ai trouvé, plein de qualités. Écoute, on pourrait peut-être se mettre ensemble dans la deuxième salle. La première salle, on l'a laissée à des gens comme des naïfs ou des Clovis Trouille, par exemple, c'était typique. Et je me suis mis à la deuxième salle avec eux. Et on a accroché nos toiles, chacun dans nos 3 mètres de cimaise. Et le jour du vernissage, j'étais là. Et il y avait des gens qui s'arrêtaient devant ce que je faisais, parce que mes toiles dans ce salon, ben c'était une tache sombre. Tout était ou beige, ocre, ou bien rouge et bleu, ou bien mauve, vert pâle, l'Hartung par exemple. Mais enfin, je ne connaissais pas Hartung. Une petite dame, les gens s'arrêtaient devant, ça les surprenait. Et une petite dame s'est arrêtée devant mes toiles, m'a dit, c'est vous, monsieur, qui faites ça? Je lui ai dit, oui, madame. Mon mari aime beaucoup ce que vous faites. Ah, je lui ai dit, merci, madame, je suis très heureux. Mais qui êtes-vous, madame? Elle me dit, je suis Roberta Grosales. Ah, merci, madame. Au revoir, madame. Et je vois mes deux copains espagnols, je dis, il y a González qui aime mes toiles. González, mais il est mort. Tu parlais avec la fille de González. C'est la fille de González. Ben oui, je me sens, le sculpteur González, mais non, c'est pas... Mais elle m'a dit, mon mari, mais son mari, tu vois, c'est ce type là-bas, avec des cannes. Et ce type là-bas, il s'appelle comment? Ils étaient avec un troisième. Ils cherchaient le nom, et le troisième dit, il s'appelle Tartung. Et puis non, ils ont rectifié, non, il s'appelle pas Tartung, il s'appelle Artung. C'était Artung. Bon, je savais maintenant qu'il y avait un peintre qui s'appelait Artung, qui aimait mes toiles, par Roberta González. Et puis, comme j'avais ramené l'étoile de Montpellier à Francis Bott m'avait dit, après m'avoir dit que je n'y étais pas, que le moment était à une synthèse de l'abstraction et du surréalisme, il m'avait dit, mais écoutez, venez un de mes samedis. Et le samedi suivant, poliment, ma femme et moi, nous sommes allés chez lui. Et là, nous sommes tombés sur des artistes qui étaient des surréalistes, un peu abstraits. Il y avait Henri Goetz, il y avait Christine Boumester, une très charmante femme. Et il y avait d'autres peintres, je crois, Vulliamy peut-être, enfin, trois ou quatre peintres. Alors, ces gens parlaient de choses et d'autres. J'écoutais. Et puis... Bon, le sang des surindépendants est arrivé, Roberta González, et puis en sortant du salon, il y a Christine Boumester, que j'avais rencontré, qui me dit, tu sais, on s'est tutoyé tous, on était des artistes, tu sais, elle me dit, il y a Picabia, qui a dit que ta toile, c'était la meilleure du salon. Alors, je ne l'ai pas cru. Je lui dis, elle aussi doit faire la même erreur que Bott, elle doit me prendre pour un collectionneur, elle est en train de me passer de la pommade. Et on m'a dit, autour de moi, notamment mes deux camarades espagnols, tu devrais aller au vernissage, il faut aller dans les vernissages, je ne connaissais personne. Et je suis allé effectivement à un vernissage. J'oublie de vous dire qu'au bout d'une quinzaine de jours, j'avais su qui étaient ces deux camarades espagnols. L'un s'appelait Finn. L'autre s'appelait Vilato, c'était le neveu de Picasso. Pourtant, il ne me l'avait pas dit tout de suite, je ne l'aurais pas demandé, personne ne me l'avait dit, je l'ai appris plus tard. Mais enfin, lorsque je me suis trouvé dans une galerie, qui était la galerie Drouin, place Vendôme, à un vernissage où il fallait que j'assiste, d'après ce qu'on m'avait conseillé, là, il y avait Christine Boumester, qui m'avait dit, et elle est venue me dire, tiens, Picabia, et là, je vais te présenter à Picabia. Donc, ce qu'elle m'avait dit pouvait être vrai. Et elle m'a présenté à Picabia, qui m'a toisé, qui m'a regardé de haut en bas. Il n'était pas grand, Picabia. Donnait une impression de force, parce qu'il avait la tête très... Le cou assez court, comme ça. Il avait l'air d'être très fort, comme ça. Et Picabia m'a dit, à ce moment-là, mais d'abord, il ne m'a pas reconnu, et il n'a pas compris. C'est Soulage. Oui, tu vois, Soulage. Ah, il a dit, les grandes toiles noires. J'ai dit oui. C'est vous ? Il dit, mais quel âge avez-vous ? Et j'ai avoué mon âge, j'ai 27 ans. Et alors il s'est mis à rire très fort, et il me dit, ah, je vais vous dire ce que Pissarro m'a dit un jour que je l'ai rencontré sur le motif. Pissarro, Picabia, c'était enfin, incroyable pour moi. Pissarro, l'impressionnisme, ça me paraissait perdu dans le temps lointain. Et il allait me répéter un propos qui traversait l'histoire de l'art, de l'impressionnisme à Picabia jusqu'à moi. Il me dit, avec l'âge que vous avez, c'est le propos qu'il me transmettait, avec l'âge que vous avez et avec ce que vous faites, vous n'allez pas tarder à avoir beaucoup d'ennemis. Je lui remercie, je lui fais un compliment, bien que de Pissarro, mais à la Picabia.
Et alors là, j'ai eu des ennemis.
J'en sais rien. Vous savez ce que je dis en général oui, sûrement, j'en ai eu, si je le sais. Mais je dis, c'est un mot de Picabia. Les ennemis, tous ceux qui parlent derrière moi ne parlent qu'à mon cul. Et j'ai eu des amis. Et ça, pour moi, c'est les amis qui comptent. Je ne m'occupe pas du reste. Et c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'amis aussi. Et alors, j'ai bafouillé quelques remerciements. Comme ça, je lui dis, jusqu'à présent, les critiques n'ont pas beaucoup remarqué ce que je fais. Puisqu'effectivement, c'était 3 semaines, peut-être, après l'exposition, il n'y avait rien eu. Peut-être un écho, quelque part, où il y avait mon nom, avec une dizaine d'autres. Et alors... Alors à ce moment-là, Picabia a fait une sorte de scandale. Il dit les critiques. Il s'est mis à parler très fort. Tout le monde s'est tu. C'est un vernissage. Les gens étaient relativement chuchotés. Et Picabia dit les critiques. Tous des ratés, dit-il. Et avec la main, des ratés littérairement. Et avec sa main, il me désigne Charles Estienne, qui était à 3 pas de moi, qui était le critique important de Combat. Et avec l'autre main, il me dit ou picturalement. Et il me désigne Madeleine Rousseau, qui était aussi un critique, qui avait une revue qui s'appelait le musée Vivant, je crois. Par chance, ces deux-là m'ont soutenu. Ce n'est pas eux qui ont été mes ennemis. Mais c'était amusant. C'était mes débuts dans la vie des vernissages parisiens.
Et c'était important pour le jeune artiste que vous étiez, 27 ans, venant de Montpellier, d'être introduit dans le milieu parisien de l'art.
Oui, et puis alors, brusquement, je me suis trouvé au milieu d'un groupe de gens qui, à la réflexion, étaient tous des émigrés. Il n'y avait pas de Français. Les Français, c'était des gens comme... ou bien, il y avait beaucoup de choses à ce moment-là. Il y avait d'un côté les peintres soutenus par le Parti communiste français... c'est-à-dire Fougeron, Amblard, Boris Nadlitsky, Pignon aussi. Et puis, de l'autre, il y avait les surréalistes qui revenaient d'Amérique, ceux qui s'étaient exilés, pas seulement Masson, mais aussi beaucoup d'autres. Et il y avait également la peinture française, dont on se gargarisait, les peintres de tradition française, ça m'agaçait. Je veux dire que... dans cette période justement de recherche d'identité, j'ai repensé à ces moments-là. Ça m'agaçait beaucoup. Et puis il y avait tous ces artistes qui se disaient non figuratifs, ce qui m'amusait aussi ça, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse désigner un mouvement artistique par une négation. Mais enfin.
Et vous saviez où vous étiez à ce moment-là ?
Sûrement pas non figuratif. J'acceptais. Le monde abstrait me gênait. J'avais tenté de m'appeler concret, mais on m'a dit non, l'art concret, ça existe. Et on m'a montré à ce moment-là des œuvres concrètes. Et c'était des triangles, des carrés, des ronds. J'ai dit, mais c'est pas concret, c'est figuratif. Comment ça ? Ben oui, ceci figure ce qu'on appelle dans le livre de géométrie des figures géométriques, qui figurent des concepts. Oh, tu nous racontes. Bon. Alors non. Bon, abstrait, bon, si on veut s'appeler abstrait, je me suis aperçu que les étiquettes, ça ne compte pas. Ce qui m'aurait dérangé, c'est comme m'assimile aux surréalistes ou aux abstraits géométriques, parce que je me sentais très différent.
Le surréalisme n'a jamais eu aucune prise sur vous.
Ah, j'ai beaucoup aimé la sculpture, qu'est-ce que je dis, la poésie surréaliste, la peinture, la sculpture surréaliste, je me suis senti très loin de ça, toujours. Mais la poésie surréaliste, et même le surréalisme, c'est une chose que j'ai beaucoup admirée, que je continue à admirer, mais ce n'était pas du tout... D'ailleurs, j'ai réfléchi, une fois j'en ai parlé avec Senghor, et Senghor m'a dit, mais c'est normal, c'est une peinture, c'est une poésie d'image, et la poésie, c'est plutôt le rythme aussi, et ça n'est pas ce qui comptait pour eux, c'est... Oui, je crois qu'il y a quand même des choses... Enfin, nous n'allons pas parler de poésie, nous sommes là pour parler de peinture. Bon, d'ailleurs, de toute façon, la poésie...
Si, parlons-en un peu, Pierre Soulages, justement, puisque vous disiez que vous avez été quand même lecteur de poésie surréaliste.
Oui.
Est-ce que, d'une façon générale, vos lectures ont eu une influence sur votre peinture ?
On est sûrement marqué par beaucoup de choses, par tout ce qu'on vit, les événements, certes, par l'histoire de la peinture, mais je ne sais pas si ça a eu une influence directe. Une chose qui m'a marqué sûrement, c'est la réflexion que j'ai faite quand j'avais 16 ans. Ça a commencé là, au fond. c'est la mise en doute de l'enseignement que nous recevions. On nous expliquait que tout avait commencé, il y avait le Moyen-Âge, obscur, sans grand intérêt, et puis qu'il y avait eu enfin le Quattrocento, la Renaissance, et enfin l'arrivée de l'illusion, enfin non, on ne dit pas l'illusion, on disait l'arrivée de la profondeur, la perspective. Je me suis dit, mais tout ça c'est de l'illusion. Comment peut-on mettre en avant... Et puis qu'est-ce que c'est que ces cinq siècles ? J'avais vu sur un livre d'histoire une image. Oui, c'était le bison d'Altamira. Et il y avait 18 000 ans en dessous. Et je n'ai pas tout de suite traduit. 18 000 ans, je dis, ça fait, oui, on est au 20e siècle. Mais non, ce n'est pas deux siècles après le... C'est 180 siècles. Et alors aussitôt, j'avais 16 ans, alors ça m'a bouleversé. Je me suis dit, on se moque de nous. On nous explique que la peinture commence au Quattrocento. Elle existe depuis bien plus longtemps. C'est quand même une activité humaine capitale, puisque 180 siècles, il y a des hommes qui peignaient. Et je me suis mis à m'intéresser à la préhistoire, qu'on ne connaissait pas très bien à l'époque. Vous savez, on connaissait Fondegomme, on connaissait Pechmerle, mais on ne connaissait ni Lascaux, ni... on connaissait Altamira. Et alors, là, je suis parti avec un archéologue de la région de Rodez faire des fouilles de dolmens. Et mon nom est entré dans un musée, d'ailleurs, il y est toujours, quand je devais avoir peut-être 18 ans, peut-être moins, je ne sais pas. Il y est toujours, on pourrait le savoir, mais ce n'est pas du tout pour de la peinture, c'est pour des objets que j'ai trouvés sous des dolmens. Et je me suis intéressé, dès ce moment-là, aux origines de la peinture.
Donc à 16 ans.
À des moments d'origine, oui, 17-18 ans. Mais je n'ai rien osé à l'époque. J'étais trop timide, et j'étais trop... Enfin, je n'ai jamais exposé que des œuvres abstraites. Je n'ai jamais exposé autre chose que ce que j'ai exposé avant 1947, non. J'ai tenté d'exposer en 46, mais comme je vous l'ai dit, j'étais refoulé. Et non, c'est arrivé. Mais enfin, ce qui est amusant, c'est que dans le catalogue de l'exposition actuelle, qui est encore en cours au Centre Pompidou, ils ont trouvé une photo que je ne connaissais pas. Mais dans la biographie, il y a une petite photo où on me voit à côté d'une échelle de corde, à côté du trou d'un aven que l'on vient de fouiller. Et je suis avec l'archéologue, un de mes copains, nous étions trois. Il y a l'échelle de corde à côté de moi, je suis assis avec un chapeau de spéléologue sur la tête. Et on l'aurait trouvé d'ailleurs, cette aven-là. Mais enfin, j'ai découvert pas mal de choses sous des dolmens.
Donc, très jeune, Pierre Soulages, 16 ans, post-adolescent, vous vous intéressez déjà à l'histoire de l'art, en remontant à la nuit des temps. Peut-être oui. Un peu de cette nuit, d'ailleurs, se retrouve dans votre fameux noir. Mais est-ce que...
Oui, mais enfin, ça, je m'en rendais pas compte. Mais mon amour du noir date de l'enfance. Et je ne savais pas... D'ailleurs, c'était un amour que j'ai défendu contre les adultes qui étaient autour de moi, qui voyaient le noir comme deuil. J'avoue leur dire que c'était toutes sortes de choses... Il continuait à insister à voir le noir comme symbole de deuil. Je leur disais, mais comment c'est aussi bien l'anarchie que le costume officiel. Les officiels s'habillent en noir et les anarchistes aussi. C'est quand même pas banal. Ouais. Et puis je leur disais tout ce que je pouvais leur dire pour leur montrer que le noir n'avait qu'une signification symbolique tout autre que celle que je trouvais moi directement dans le noir.
Et justement, dans l'un des textes du livre... Écrits et propos, qui est publié chez Hermann, vous parlez d'un paysage de neige que vous avez peint enfant et qui était en fait de l'encre noire sur une feuille de papier.
Oui, ça, je l'ai dit souvent, ces choses-là, oui. Jean-Michel Lelanoux l'a conservé, ce texte, il a bien fait, je crois. Comme tous les textes qui sont là, ils sont très, très choisis.
Et comment la neige peut-elle être noire, alors ?
Mais c'est le contraste. C'est une explication que je donne maintenant. Vous savez, quand récemment Pierre Crevé est venu à Rodez voir une de mes vieilles cousines, qui avait beaucoup plus âgée que moi. Elle est morte à 102 ans, il y a un an ou deux. Et moi, j'ai 90. Et cette vieille cousine lui a demandé, alors elle a commencé à lui raconter cette histoire, mais c'est une histoire de paysage de neige, toute la famille en avait parlé, moi je m'en souvenais même pas. C'était des choses qui intéressaient la famille, parce qu'un jour on me demandait ce que j'étais en train de faire, on m'a dit, j'ai répondu, de la neige, pas un paysage de neige, c'est pas vrai, de la neige, j'ai dit. J'essayais probablement de faire du papier plus blanc, c'est l'explication que je donne maintenant, en mettant du noir à côté, le papier c'est gris. Quand on met du noir à côté, il devient plus clair, plus blanc. Probablement, c'est ce que je vais chercher. Enfin, j'ai toujours aimé cette couleur pour son pouvoir, pour son action picturale. C'est une couleur puissante, le noir. Une couleur, oui. C'est mettre du noir à côté du sombre, brusquement, le sombre, c'est clair. C'est très, très actif. Oui, mais enfin, j'ose à peine. Bon, il a voulu remettre ça, mais ça a été des milliers de fois raconté, ça. Les textes, il y a d'autres textes que celui-là, je pense. Heureusement.
Il y a un texte où vous racontez comment, en franc-tireur, d'une certaine façon, vous aviez décidé, très jeune, de faire votre éducation de peintre en dehors des circuits officiels et en dehors des Beaux-Arts en particulier.
C'est vrai.
Alors, Pierre Soulages.
Comment ?
Un rebelle.
Je ne sais pas si c'est pas... Parce que je suis naturellement rebelle, mais je me suis rebellé, en tout cas, contre un certain nombre de choses qui pourraient faire passer pour un rebelle. Ça a commencé très jeune, d'ailleurs. Enfin, je me suis évadé deux fois de l'école. Une fois quand j'avais 5 ans, parce qu'on m'avait puni. Et une autre fois quand j'avais 18 ans, parce que j'étais admis, j'avais réussi au concours d'admission d'une école nationale supérieure, l'école des Beaux-Arts. Et la première fois, je m'étais enfui parce qu'on m'avait puni. La deuxième fois, je me suis enfui parce que j'avais réussi et que je ne voulais surtout pas subir ou entrer dans cette école, ayant vu, à l'occasion du concours, ce qu'on y faisait. Je me suis dit, j'ai rien à voir avec cet homme qui me balance. Je m'étais présenté à ce concours, pas de mon propre mouvement. Je m'étais présenté parce que, au fond, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de devenir professeur de dessin. Et parce que je pensais que c'était une bonne manière de gagner ma vie, d'avoir beaucoup de liberté pour faire de la peinture que je voudrais faire sans me préoccuper de la vendre.
Parce que ça, c'était une décision irréversible, voilà. Faire de la peinture.
Ah oui, j'ai toujours fait. Oui. C'est une décision irréversible qui est arrivée d'ailleurs après toutes les folies de l'adolescence où je faisais des fouilles de préhistoire, là, certains liens, où j'apprenais à piloter un caudron luciole, un petit avion. Où je pêchais la truite à la mouche, où je jouais au rugby, et où je faisais de la peinture. Et quand j'ai eu 20 ans, je me dis, tout ça, c'est de la dispersion, il n'y a qu'une chose qui me passionne, il n'y a qu'une chose importante au fond, c'est la peinture. Et j'ai rejeté l'ensemble. Plus d'avion, plus de pêche à la mouche, plus de rugby, plus... le rugby m'a repris tout récemment, enfin... il y a quelques dizaines d'années, l'intérêt pour le rugby, parce que je m'en étais totalement désintéressé.
La peinture, alors ?
Mais qu'est-ce qui vous... la peinture,
qu'est-ce qui vous fascinait à
je vous l'ai raconté.
Dans la peinture.
Pardon ?
Qu'est-ce qui vous fascinait à ce point ?
Je me le demande.
Au point d'oublier le reste ?
Je me le demande. Oui, parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. J'aimais ça.
Ouais.
Et comme il y a des gens que j'aime, et comme m'a dit un jour Dalteil sur moi, j'aime cet homme, mais qu'est-ce que l'amour ? Et c'est pour la peinture, c'est pareil, je peux dire ça. Pourquoi ? En tout cas, si je ne peins pas, je ne suis pas bien. Je me sens mieux quand je peins.
Aujourd'hui encore.
En ce moment, je ne vous cache pas, j'expose. Et j'expose beaucoup. Et Paris, certes, puis bientôt le Mexique, puis ensuite, tout de suite, d'ailleurs Montpellier. Mmh. Montpellier avec les cartons des vitraux de Conques. Et le verre que j'ai inventé pour la lumière que j'ai inventée, que j'ai recherchée pour Conques. Et puis alors après...
L'Allemagne
oui, et puis Martin Gropius-Bau à Berlin, après le Mexique, et puis une exposition dans une galerie de Londres. Non, c'est... Là, je voudrais me calmer un peu de ce côté-là et retrouver le calme, le silence et l'éternité que j'ai devant moi quand je peins. C'est-à-dire ne pas être obligé de calculer les heures de travail comme je suis en train de le faire.
Et là, au moment dont nous parlions, on n'en était pas là, loin de là. Vous étiez un jeune, tout jeune artiste.
Oui, ah, mais je zigzague souvent, vous savez.
Vous saviez que c'était très difficile puisque vous aviez l'idée d'assurer vos arrières en essayant de devenir prof de dessin.
Et oui, parce que, bon, il fallait que je gagne ma vie. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Ma mère était veuve. Et bon, je choisis d'être prof de dessin. Je débarque chez René Jourdon, qui était un atelier de préparation au professeur de dessin. Premier dessin que je fais chez lui, il me met une note énorme, il me dit, venez me trouver à la fin du cours, pour vous, c'est pas ça, le professeur de dessin, vous, c'est l'école nationale, supérieure des beaux-arts, le prix de Rome. Je lui dis, monsieur, j'ai besoin de gagner ma vie. Fichez-moi la paix, votre vie, vous la gagnerez, faites ce que je vous dis. C'était en réplique. Le lendemain, d'ailleurs, il était venu me voir dessiner. C'était le premier dessin que je faisais chez lui. J'avais une lettre de lui, d'ailleurs, que j'ai toujours, que j'ai gardée pieusement, dans laquelle il se souvient... Il m'a écrit... Cette histoire que je vous raconte, je l'ai racontée à ma première exposition rétrospective que j'ai eue en 1967 au Musée d'Art Moderne de Paris, au Musée National. Il vivait encore, cet homme. J'avais passé 8 mois chez lui, et presque 30 ans après, il se souvenait de moi, il m'a écrit. Et il m'a écrit, et il me répète dans sa lettre, ce qu'il m'avait dit, ça l'avait frappé, le deux ou troisième jour de cette note, il était venu s'asseoir près de moi, il m'avait dit, fais comme si je n'étais pas là, continue. Et je dessinais, après quelques mois d'hésitation, très intimidé, je recommençais à dessiner, il a attendu, il est resté un quart d'heure, et je sais ce que je faisais à ce moment-là. Je cernais avec un fusain extrêmement léger, presque invisible sur le papier, les zones de clair et les zones de sombre. Et puis, je dessinais la ligne de passage ombre à la lumière. Et puis après, je m'occupais du contour. Enfin, j'étais en train de faire ce travail-là. Au bout d'un moment, il m'a mis la main sur l'épaule, il me dit « Toi, toutes les audaces te seront permises. » Et il s'est allé plus loin. Alors, ce qu'il y a de curieux, si je raconte ça, c'est que ce sont les termes de la lettre qu'il m'a écrite 30 ans après. Il se souvenait parfaitement de ça. Et moi aussi, vous pensez, c'est un homme qui m'a donné confiance en moi. J'ai eu de la chance dans la vie. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé toujours sur des gens qui m'ont aidé. Lui qui me détournait vers quelque chose que je n'aimais pas. Puisque lorsque j'ai su que j'étais admis à l'école d'affaires des Beaux-Arts, j'ai pris immédiatement le très beau Rhodes. Je lui ai dit, j'ai tout planté là. 8 mois après, entrer chez Jourdon, je suis arrivé à Rhodes, ça a été un drame, parce que j'avais une sœur qui était plus âgée que moi, qui avait 15 ans de plus que moi, et qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Elle me dit, comment tu es admis dans une école nationale, sans faire d'école régionale, et tu ne veux pas y entrer, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te connaissais pas comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qui te prend? Bon, elle croyait au diplôme, ma sœur. Elle était professeure de philosophie. Alors, elle était très contente quand ses élèves réussissaient au bac. Et j'ai dû lui expliquer, à grand-peine. Enfin, bon, elles se sont calmées. Ma mère, elle était beaucoup moins... Ma mère m'a toujours fait confiance. Elle a toujours... Mais elles ont accepté ça parce que la guerre menaçait. Et j'étais mobilisé tout de suite. Alors, ça a été. C'était réglé. La guerre, puis après, démobilisation, les chantiers de jeunesse, démobilisation, retour à la vie. Je deviens le travail obligatoire en Allemagne. Faux papier, pas question que j'aille en Allemagne. Je me perds dans les vignes. Un jour, je vois une silhouette au loin. C'était Delteil. Je savais qui il était. J'avais lu ses romans, un de ses romans, au lycée. Il vient vers moi, je vais vers lui, nous étions absolument seuls, il n'y avait rien, il n'y avait personne à l'horizon. Et une fois que j'étais près de lui, nous sommes serrés la main, nous sommes voisins, j'ai vu qu'il me regardait, c'est moi qui m'occupe de la propriété de la Valsière, j'étais une sorte de régisseur pour une petite propriété. Je lui dis, en réalité, je suis un insoumis, un réfractaire, on dirait maintenant. Je l'ai vu un peu gêné, mais je savais que cet homme-là ne pouvait pas me trahir, c'était pas possible. Donc je lui avouais d'emblée qui j'étais. Devant son étonnement, d'ailleurs, il a vu que je n'étais pas un paysan, ni un viticulteur. Et il m'a dit, venez me prendre un verre chez moi ce soir. Je suis allé le soir chez lui. Et la sympathie est née instantanément. Et là nous avons... Mais cet homme a cru en moi, ça m'a beaucoup aidé. Jodon, Delteil, à Paris, Picabia. Au fond, j'ai eu beaucoup de chance.
Écrits et propos de Pierre Soulages, des textes recueillis par Jean-Michel Lelanoux aux éditions Hermann. Et je rappelle que la rétrospective Soulages se poursuit à Paris, au Centre Pompidou, jusqu'au 8 mars, suite de notre entretien demain soir. Bonsoir. Second et dernier volet de notre entretien avec Pierre Soulages, à l'occasion de la publication de ses écrits et propos recueillis par Jean-Michel Lelanoux aux éditions Hermann. La réalité d'une œuvre, c'est la manière qu'elle a d'être un tout, cohérent, vivant, chargé de pouvoir. Pierre Soulages, on s'est quitté sur deux événements importants, la guerre, la rencontre de Delteil,
oui.
Une chance,
oui.
Dans une vie où, dites-vous, vous avez eu beaucoup de chance,
oui.
Et puis l'entrée à Paris, à l'École des Beaux-Arts. Alors ça, c'est une autre histoire.
Il y a eu Delteil, et puis il y a eu Picabia, et puis tout le groupe d'artistes... D'ailleurs, tous des émigrés, c'était des Allemands, c'était des Hartung, il y avait aussi Nouveau, Il y avait des Allemands, des Américains, des Hollandais. Je me suis aperçu que j'étais, ce que m'a dit un jour un journaliste, mais vous étiez un émigré de l'intérieur. Manière de voir les choses.
Il n'y avait pas de ministère de l'identité nationale à cette époque.
Les peintres français de tradition française. D'ailleurs, ces peintres français de tradition française, ça m'agaçait. Cette manière de vouloir réduire et découvrir une essence qui serait l'essence de la française. Ça continue à m'agacer, je ne crois pas.
Les Beaux-Arts, alors, ça passe si bien marché que ça ?
Alors, les Beaux-Arts, je me suis enfui. Mais pas tout à fait, parce que lorsque la guerre, j'ai échappé, lorsque ça a été fini, pour moi, après, je suis arrivé à Montpellier le 13 janvier 1941, après avoir été libéré des chantiers de jeunesse. Je suis retourné à Rodez, et dans ma famille, et là, on m'a dit, ben écoute, maintenant, tu t'es bon en physique et chimie, tu pourrais peut-être faire de la médecine, pourquoi tu ne ferais pas la médecine ? Insistait ma sœur qui ne voyait pas d'un bon œil mon idée de professeur de dessin. D'ailleurs, quand je lui avais dit ça la première fois, elle m'a dit, pourquoi pas professeur de gymnastique ? Tu joues au rugby ? Alors je lui ai dit, non, écoute, ne te moque pas de moi, mais... Alors, j'ai vu brusquement sur un journal local que l'école des Beaux-Arts de Montpellier est habilitée à faire passer le professeur de dessin. J'ai foncé à Montpellier. Et je suis arrivé à Montpellier, comme je vous le disais, le 13 février 1941. Là, je rencontre un flic sur la place de la Comédie. Je lui dis, vous ne pourrez pas m'indiquer petit hôtel pour étudiants. Vous savez, en ce moment, c'est difficile. Peut-être, vous pourriez aller voir là-haut, rue Saint-Firmin, près de la place de la préfecture. Vous savez, la rue Saint-Firmin, vous voyez, vous montez là, et puis vous prenez en haut. Hein. Ah bon, je vois, oui. C'est un hôtel qui s'appelle le Clocher de Rodez. Ça fait un coup, parce que le Clocher de Rodez, je voulais de Rodez, c'était drôle. Je suis arrivé là, et il y avait commencé à y avoir des gens, c'est tout près de la place de la préfecture, qui était sur la place de la préfecture, qui commençait à se grouper. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je suis allé trouver la chambre, je commençais à ranger, à sortir ma valise, les quelques affaires que j'avais amenées avec moi. Quand j'ai entendu des cris, des gens qui scandaient, on veut du pain, on veut du pain, oh là là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ces gens, on avait faim, j'avais eu très faim dans le chantier de jeunesse. Je m'étais un peu refait j'ai passé une semaine à Rodez, mais pas plus, et là, on mangeait tout ce qu'on voulait. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je suis descendu, et alors il y avait foule. Les gens s'étaient amassés, il y avait foule devant la préfecture, et ils étaient tous en train de crier devant le balcon, on veut du pain. Et à ce moment-là, les fenêtres du balcon se sont ouvertes, et sur le balcon sont apparus Pétain et Franco. Alors je me suis aperçu que j'avais entendu de travers. Ils étaient en train de dire « Vive Pétain, Pétain !» Et j'avais entendu du pain. C'est ce que ma ventre affamée peut entendre. Oh, j'étais tellement déçu. J'étais catastrophé. J'avais vécu avec passion, et une passion malheureuse, la guerre d'Espagne. J'aurais eu quelques années de plus, je m'engageais dans les brigades internationales. D'ailleurs, j'ai toujours ma carte des amis des brigades. J'étais tout à fait antifranquiste. Et voilà que je vois, j'arrive à Montpellier, je vois Franco et Pétain au balcon de la préfecture. Je me dis, quoi, je mis les pieds ? Qu'est-ce que c'est que cette ville ? J'ai failli partir. J'avais trop peu d'argent, je ne serais pas parti pour en partir. Je suis resté là, mais vraiment malheureux. Le lendemain, je suis allé au musée Fabre. Et là, j'étais consolé. Je me suis dit, au fond, c'est ça les choses importantes. Il n'y a que ça. Ça passera. C'est pas possible. Tout ça, ça finira. Et j'ai regardé, et j'ai vu Zurbaran. Et j'ai vu Courbet. Et j'ai vu Marie-Jeanne Missik, Sainte-Catherine. J'ai vu la crucifixion, de les centres de croix de Campana. J'ai découvert le monde où on peut vivre.
Mais qu'est-ce que vous avez vu dans ces tableaux que vous avez vus?
Qu'est-ce que j'ai vu? Bon, ça m'a consolé de tout.
Qu'est-ce que vous voyez chez Courbet, par exemple?
Courbet, j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas le premier que j'ai choisi. C'était Zurbaran. Et puis, Courbet. Oui, c'est vrai. Le Marge Missik, Sainte-Catherine. Il y avait un Nicolas Poussin aussi qui m'avait un peu impressionné, que j'avais regardé avec beaucoup d'intérêt.
Qu'est-ce qui vous impressionne là-dedans?
Comment?
Qu'est-ce qui vous impressionne?
Dans Poussin, c'était le calme, la rigueur, l'équilibre. Mais ce n'était pas le tableau que je préférais. Ce que je préférais, c'est ce de Zurbaran. Les portraits de Courbet, l'homme à la pipe. L'homme au col gris, je trouvais ça magnifique. Et puis cette grande baigneuse, absolument fabuleuse. C'était un tableau superbe. Cette grande baigneuse, ce nu que Napoléon III a cravaché parce qu'il trouvait que c'était une honte de peindre une femme comme ça, une représentation d'une percheronne. Enfin, c'était un. Enfin, je trouvais ça admirable. C'est la beauté de la lumière, qu'il avait. La lumière organisée là-dedans, on ne voit que le nu. Regardez la lumière qui vient en oblique comme ça, c'est superbe, comme c'est fait avec discrétion, avec intérêt, avec... Non, c'est un grand peintre, Courbet. Très beau. Puis alors, les deux portraits, l'homme à la pipe et l'homme au col gris, je trouvais ça magnifique. Alors, je suis entré à cette école des beaux-arts. Alors, mes copains ont vu que je ne dessinais pas comme eux. C'est tout de suite. Et... Il y en a un qui m'a dit, tiens, tu sais, tu es très différent ce qu'on fait, tu viens de... Oui, c'est vrai. Et il y a une fille aussi qui dessinait, qui faisait des choses très intéressantes, mais elle ne viendra pas, parce qu'elle a la typhoïde, je crois que... Bon. Et puis, il y avait un mois, j'étais là, ou deux mois que j'étais dans cette école. Donc je suis parti assez vite, puisqu'il y a eu le travail obligatoire en Allemagne. Et là, il ne s'agissait plus que... J'aurais dû partir. Là, je me suis arrangé pour devenir viticulteur d'occasion. Et alors là, quelques mois après... quelques semaines après mon arrivée, j'ai vu arriver une espèce de petit chevreau déplumé, presque pas de cheveux, très maigre, qui a tourné autour de nous. Nous étions tous assis avec devant nos chevalets, des chevalets transportables, des chevalets d'atelier, avec notre carton sur un théâtre dessiné, était autour d'un antique. Je crois que c'était le disco fort de Nocides, l'homme qui tient un disque. Et cette petite jeune femme, fragile et mince, a fait le tour aussi. Elle avait des yeux qui m'avaient impressionné quand elle regardait, puis elle s'est assise à côté de moi. Et elle a dessiné à côté de moi. Nous ne sommes pas parlés du tout. D'ailleurs, dans cette école, on ne tutoyait pas les filles. On se tutoyait entre garçons, mais on disait vous aux filles. Et un jour, je l'ai retrouvée, trois jours après, devant l'école, en train de dire à trois garçons, Picasso, mais vous êtes fous, c'est pas de la peinture métèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peinture métèque? Il lui disait, Picasso, c'est de la peinture métèque. Alors, c'est un grand dessinateur, en train de dire. Je me suis arrangé pour la sortir de là. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, vous avez tort. Vous faites de prosélytisme, vous n'arriverez jamais à faire comprendre ça, c'est à cela. Moi, je vais au musée Fabre. Je pars m'accompagner. Oui. On est partis ensemble. C'était le musée Fabre. Et on ne s'est plus quitté. Ça fait 67 ans de ça.
Une histoire d'amour.
Pardon?
Une histoire d'amour.
C'est... Oui, on peut dire ça. C'est étonnant. C'est étonnant quand ça dure.
C'est en regardant la peinture, au musée Fabre ou ailleurs, qu'on l'apprend quand on veut être peintre?
On prend du recul dans les choses, en tout cas, quand on connaît l'histoire de la peinture depuis le début de l'humanité. À ce moment-là, d'ailleurs, les cavernes, oui, mais c'était pas l'art des cavernes qui m'intéressait le plus, c'était le Moyen-Âge. Et chose intéressante, elle aussi, celle qui est devenue ma femme, sa passion, c'était la peinture romane. Tout le monde connaissait la sculpture romane, oui, bien sûr, le Moissac, Souillac, mais la peinture, personne. Et là, j'ai découvert avec elle, Tavan, Saint-Savin. Personne ne nous parlait de Tavan, même encore de nos jours. Quand on dit Saint-Savin, oui, peut-être, Tavan, personne ne connaît. Même des médiévistes connaissent Tavan, le nom, mais ils n'ont pas toujours vu sur place les peintures de Tavan. Et dès ce moment-là, ben oui, mais ça aide à prendre du recul. On s'aperçoit que dans l'art, ce qui importe, dans la peinture, ce n'est pas l'illusion. L'illusion que l'on nous présentait toujours comme un progrès, la perspective, la profondeur, l'idée que l'espace continue derrière le mur. Enfin, on s'aperçoit que c'est d'autres choses. Pour les romans, pour les peintres romans, ce n'était pas ça. Pour la préhistoire non plus, depuis les origines de l'humanité, ce n'était pas ça. Ce qui compte, c'est un autre mot. C'est la présence. Ce n'est pas l'illusion. Et la présence, c'est le contraire. L'illusion, ce n'est pas la présence. C'est une fausse présence.
La présence, c'est un mot qui revient souvent dans les textes du livre.
Oui. Mais c'est un mot qui plaît aussi à Lelanou, qui est l'auteur du livre, de ce livre qu'il a conçu.
Mmh. Il a rassemblé les textes.
Il a rassemblé, oui, les textes, il a rassemblé, oui. C'est oui, c'est un mot que je crois qui est commode parce qu'il rend compte de quelque chose d'important qui n'est pas l'illusion.
Mmh. Il peut avoir une dimension spiritualiste aussi.
Oh, spiritualiste, non, modéiste de trop, mais spirituel peut-être, enfin qui concerne qui se trouve dans notre champ mental, dans tout ce qui est la complexité qui nous habite quand nous disons que nous aimons un tableau, ou une peinture. Un tableau, pas forcément, mais une peinture. Qu'elle soit préhistorique ou romane.
La question du spiritualisme, c'est une question qui ne se pose pas, même quand on est l'auteur des vitraux de Conques.
Mais, vous savez, je crois qu'il y a trois choses. Il ne faut pas mélanger. Il y a le divin, il y a le sacré et il y a le religieux. Le religieux englobe le divin et le sacré. Moi, je crois au sacré. Je crois que même tout le monde porte en soi le sacré. On ne le place pas tous au même endroit, mais nous avons tous une notion du sacré. Même les gens qui vous disent, pour eux, la vie humaine est sacrée, par exemple. Au moins ça. Il y a toujours quelque chose de sacré en nous. Moi, je crois au sacré. Et dans le cas de Conques, c'est tout à fait autre chose. Quand on m'a demandé de faire des vitraux, j'ai refusé. J'ai refusé pour deux raisons. La première, c'est que j'en avais déjà fait un pour Aix-la-Chapelle. Et je m'étais aperçu que je m'évertuais à ne pas en faire une peinture sur verre, une peinture vue par transparence. Et pour ça, j'avais pris des morceaux, j'avais fait une mosaïque de verre au fond, en éclatant du verre et en mettant ça dans du béton, plus ou moins. Puis au fond, c'est une peinture, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai surtout essayé de ne pas faire une peinture, de faire autre chose, une manière de penser. Non, je n'aime pas ce que j'ai fait là. J'accepte la chose, je la signe, mais ce n'est pas une voie qui m'intéresse. Et j'avais décidé de ne pas faire de vitraux. Et puis on est venu me relancer, c'est à l'époque du premier ministère Lang, c'est
Molard.
de la direction... La
délégation aux arts plastiques.
Oui. Direction des arts plastiques, c'est ça. Ça, j'ai toujours quelques difficultés, moi, avec les, ces mots...
Ces titres universitaires, ça change.
Oui, mais enfin, Claude Brollard, donc, vient me dire, on tient absolument à ce que vous fassiez, à faire intervenir dans les monuments du patrimoine. Faire intervenir des artistes contemporains dans les monuments du patrimoine. Écoutez, faites des vitraux à Beuville. Je dis non, écoutez, monsieur, à Beuville, je ne veux pas faire de vitraux. Puis j'ai commis une erreur. Ça a été de lui dire, c'est trop grand. Il ne faut jamais faire ça. Je sais depuis. Quand on refuse, il ne faut jamais donner la raison. Parce qu'on trouve toujours un moyen de la tourner. Il me dit, alors, Tronoën, oui, je vois, c'est en Bretagne. Je dis, oui, c'est une petite église romane, je sais que vous aimez la roman. Oui, la roman a beaucoup compté pour moi, c'est vrai, puisque c'est même dans une église romane, un jour, devant l'architecture romane, que j'ai trouvé que j'étais très, très exalté par l'espace créé par cette architecture. L'espace architectural. D'ailleurs, lumière incluse. Et alors, je suis Tronoën, écoutez, non, il n'y a aucune raison, j'aime beaucoup la Bretagne, j'aime beaucoup, mais pourquoi pour voyager? Ah, vous êtes du sud-ouest, si on veut, je dis oui. Alors écoutez, je ne voulais pas de Tronoën, Florent. Florent, je dis, mais Florent, c'est une église cistercienne, c'est une abbaye cistercienne, il n'y a jamais eu de vitraux, là. Ah oui, attendez, alors, Sylvanès. Ah, je dis, vous rapprochez de mon lieu d'origine. Sylvanès, c'est dans l'Aveyron. Et je suis né à Rodez. Ah, Rodez, alors, il me dit Conques. Et ma femme était près de moi à ce moment-là. Et elle savait ce que cet espace architectural de Conques m'avait, à quel point cet espace m'avait touché quand j'étais adolescent. Et elle m'a dit, Pierre, Conques. Et Mola m'a dit, c'est ce passé-là. Mola m'a dit, je sens que je vous intéresse. Je lui ai dit, oui, rendez-vous à Conques samedi. Alors, je lui ai dit, non, je ne peux pas samedi. Ben, samedi suivant. Alors, nous sommes allés à Conques. Et là, je suis tombé sur une dizaine de personnes qui m'attendaient. Enfin, nous étions, je crois, 11 en tout. Il y avait le maire de Conques, les architectes, il y avait les gens de Toulouse, le représentant du patrimoine, il y avait un tas de gens. J'étais embarqué, mais je me suis dit, non, langue, ça en va, le mystère de langue va tomber, c'est, par conséquent, je ne risque rien quand même. Je pensais que ça allait tomber à l'eau. À Mollard, c'est Bozo qui a succédé, et à Lang, ça a été Léotard, et Bozo a dit à Léotard, il faut signer. Et finalement, ce qui n'avait pas été signé par Lang, qui avait été envisagé par Lang, a été signé par Léotard. Donc j'étais embarqué, et il a fallu que je fasse des vitraux à Conques. Alors là, j'ai commencé à évacuer toutes les émotions que j'avais pu eu enfant. J'ai mesuré. Je suis allé très froidement. Et je me suis aperçu des extraordinaires anomalies qu'a l'architecture de Conques. Par rapport, il y a des dissymétries ahurissantes. Des fenêtres qui sont au nord, le nord naturellement sombre, à Conques particulièrement sombre en plus parce qu'il y a à 3 mètres de là un mur de soutènement qui coupe la lumière. Elles sont plus petites, plus basses, que celles qui leur font face au sud, qui sont elles plus grandes et plus larges. Stupéfiant. Le contraire de ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait attendre. Et si on avance dans la nef, on arrive au transept. Et alors là, au transept, c'est l'inverse. Au transept, c'est les grandes fenêtres, même hauteur que celles qui leur font face au sud. Celles-ci. Mais celles du sud, beaucoup plus étroites que celles du nord. La lumière est organisée, manipulée. J'ai essayé de savoir pourquoi, mais je ne me suis pas occupé de savoir pourquoi, puisque quand je me suis trouvé cette chose qu'il fallait que je fasse, je n'ai pas du tout essayé d'en connaître les raisons. Je vais être fidèle à l'identité de ce lieu. Ce lieu est fait de telle sorte celle que je viens de vous décrire, en simplifiant, puisque c'est encore plus complexe que ça. L'architecture elle-même est très massive. C'est une fois et demie la largeur, la longueur. La longueur est une fois et demie la largeur. C'est très compact. Les murs sont très épais. Il y a des ébrasements profonds. Quand on entre là-dedans, c'est massif. Et brusquement, on entre, et c'est la nef la plus haute de la Roman. 1 mètre de plus que Saint-Cernin de Toulouse, qui est beaucoup plus grande. Conc à 50 et quelques mètres, Saint-Cernin à 120, et beaucoup plus. C'est beaucoup plus large. Alors, brusquement, dans cette force, c'est la grâce. Et en plus, avec cette organisation incroyable de la lumière. C'est passionnant comme chose à faire. Alors je me suis évertué, et c'est comme ça que j'ai fait les vitraux de Conques. Mais en essayant de concentrer le regard sur la beauté de cet édifice-là, ce qui correspond aussi, je dois dire, à l'utilisation religieuse qu'on peut en faire. Mais enfin, les gens qui aiment Conques ne sont pas tous chrétiens, ils ne sont pas tous, même s'ils sont chrétiens, pratiquants. Il y a aussi des gens qui aiment Conques, qui sont musulmans, ou j'en connais beaucoup qui sont japonais, par exemple.
Faire des vitraux, c'est pas seulement être confronté à un certain nombre de questions techniques qu'il faut résoudre.
Non, mais c'est aussi produire une émotion qui aille dans le sens de celle qu'on pourrait avoir, celle que donne l'architecture. C'est être fidèle à ce que provoque en moi, bon, c'est comme ça que je l'ai pris, et que ce que provoque en celui qui entre, l'organisation architecturale de la lumière de ce lieu. Et j'ai été guidé par ça. Alors certains y voient, ils trouvent leur compte avec ce qu'ils sont. Mais ça correspond tout à fait à ce que je dis de la peinture, quand je dis que, au fond, le sens, c'est celui qui regarde qui le fait. Je dis ça. Ce que j'ai écrit dans les années, justement, je parle du triple rapport, de ce triangle qu'il y a entre la chose que c'est, l'œuvre d'art, la chose, celui qui l'a faite et celui qui la regarde. C'est un homme qui a créé. On sait bien que c'est pas n'importe quoi. C'est fait par un homme, c'est pas un objet de hasard, c'est un artefact, c'est une chose, c'est-à-dire qui n'est pas définie par une signification quelconque, et celui qui la regarde. Et le sens de cela, c'est le triple rapport qui est entre ces trois choses-là. Et celui qui regarde est toujours différent. D'ailleurs, c'est très intéressant de réfléchir à ça. Quand on pense que... Moi, ce que je pense là, ce sont des c'est mon expérience qui m'amène à ça. Un jour, je suis au Louvre. Je suis profondément touché par une sculpture mésopotamienne. Il y a un mouvement de lumière dans la pierre qui va loin en moi. Je me dis pourquoi ça va aussi loin en moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'homme qui a fait ça? Il a probablement fait ça pour une raison, pour honorer un dieu que je ne connaîtrai pas, que je ne connais pas, ou un souverain, ou un roi de son époque. C'est un autre homme que moi, il vit dans une société totalement différente. Et cependant, ça va très loin en moi. Alors, il a fait même, ça avait même un sens pour lui, probablement. Il a célébré quelque chose avec ça. Je n'en sais rien, ce qu'il a célébré. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui intervient dans l'émotion que j'en ai. Ce n'est pas le sens qu'il a pu vouloir lui donner qui me touche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art ? Eh bien, je me suis dit, c'est une œuvre d'art, c'est ma conclusion que j'en ai tirée, c'est un objet, une chose, non pas un objet justement. C'est une chose sur laquelle viennent se faire et se défaire les sens qu'on lui prête. C'est une chose qui est capable de mobiliser en moi les choses qui m'habitent et qui me sont importantes. C'est pourquoi je l'aime. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et c'est comme ça que je me suis fait cette idée de l'œuvre d'art, qui est d'ailleurs répandue à travers tous les textes que le Lannou a réunis dans ce livre dont vous me parlez.
Il y a un mot que vous avez beaucoup prononcé à propos des vitraux de Conques, c'est le mot lumière, parce qu'évidemment, les vitrails, ça sert aussi à ça, à faire passer lumière.
D'abord, puisque ça a 56 mètres de long, Conques, il y a 114 ouvertures. excusez-moi, 104. Enfin bon, plus de 100 ouvertures dans plus de 100 dans 54 mètres. C'est pas pour faire. C'est parce qu'on cherche la lumière quand même. Et puis la lumière est organisée là, comme je vous l'ai dit, elle est organisée. Elle est, oui. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. J'ai pris ce travail quand on m'a dit il faut faire des vitraux. En général, on dit vos esquisses. J'ai refusé de faire des esquisses. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire avec de la peinture, de l'aquarelle ou de la gouache, quelque chose qui va être interprété par du verre. Je vais partir directement du verre qui produira la lumière. Je vais sauter une étape. J'avais beaucoup, après avoir mesuré, après avoir constaté ce qu'était réellement cet espace, après avoir cherché ce que je pouvais obtenir, j'ai décidé deux ou trois choses. En particulier, couper le regard de l'extérieur, complètement, qu'on ne voit rien à travers les fenêtres. Que ça la coupe, que ce ne soit pas comme le verre antique qui brouille. On ne voit pas, mais ça brouille. Non, rien. Le verre qu'on appelle antique, vous savez, qui est un verre soufflé, qui avec une multiplicité de plombs, qui empêche qui brouille la vue de l'extérieur. Non, il faut que ça la coupe complètement.
Vous avez étudié tous les verres possibles.
Oui, je ne les ai pas trouvés. Alors, ne les trouvant pas, je me dis, je vais les faire. C'est une folie. Ça pouvait capoter, bien sûr. Mais enfin, pourquoi pas? C'est une aventure qui a duré quand même 8 ans, 7 ans de travail, en tout cas. Alors, je suis parti au Sirba, à Marseille, et j'ai essayé de chercher un verre qui corresponde à ce que je voulais. Couper le regard, continuer les murs. Je ne voulais pas que les fenêtres soient des trous. Je voulais qu'elles continuent les murs. Et puis, j'aurais aimé qu'elles apparaissent comme émettrices de clarté. Plutôt que comme soit une émission de clarté plutôt qu'une transmission. Alors je cherchais. J'ai fait des essais, lancé des centaines d'essais au Sirva. Jusqu'au jour où quelqu'un est passé et m'a dit, je vois un homme à qui je rends hommage. Il s'appelle Jean-Pierre Causse, qui était le directeur scientifique de Saint-Gobain, qui m'a dit, écoutez, je vois ce que vous cherchez. Venez à Saint-Gobain Recherche, vous trouverez des ingénieurs qui vous aideront. Et alors, ça m'a bien arrangé, parce qu'au lieu d'aller à Marseille, c'était à Aubervilliers. C'était quand même beaucoup plus commode. Alors, j'étais à Aubervilliers, reçu à Aubervilliers, avec toutes les précautions qu'il convient d'avoir dans un lieu pareil, badge, etc., signature à l'entrée, heure précise, enfin, etc. Et là, j'ai réussi à mettre au point ce que j'avais déjà envisagé, compris que je pouvais faire grâce au Sirva. C'est au Sirva que j'ai réalisé comment je pouvais y parvenir. Et y parvenir, j'ai réussi à mettre au point tout ça grâce à Saint-Gobain. Et lorsque j'ai eu trouvé cette lumière, ce verre-là, on n'a pas pu le fabriquer en France parce qu'il n'avait pas les outils. Ni Saint-Gobain d'ailleurs, Saint-Gobain aurait pu avoir les outils, mais enfin, il fallait arrêter peut-être des chaînes de production, enfin c'était pas faisable. Alors on a trouvé une petite usine en Allemagne qui les a fabriqués selon mes instructions. Mais je suis parti directement, c'est là où je le dis, il n'y a pas eu d'esquisse. Et je me souviens d'une scène amusante, c'est qu'un jour il y avait une réunion avec les affectataires religieux, avec les architectes des monuments historiques, les représentants du patrimoine, et je devais apporter mon projet. Et tout le monde attendait des esquisses. À ce moment-là, c'était Pacman qui était à la tête de la DAP. C'était plus Bozo. Et je suis arrivé avec un grand morceau de verre. Et alors, quand tous ces gens autour d'une grande table m'ont dit « Monsieur Soulage, votre projet », et j'ai mis un grand morceau de verre sur la table. Il y avait Pacman qui riait sous cap. Les gens ouvraient tous des yeux ronds. Je leur ai dit « Écoutez, je cherche une lumière ». Je pense avoir trouvé ce qui convient avec ce verre-là, que vous avez là, où il y a une variation lumineuse. J'ai expliqué qu'était le verre que j'avais inventé, que j'avais réellement en utilisant deux états du verre. L'état où il est opaque comme de la pierre et l'état où il est transparent. Et en faisant coïncider ces deux états dans le même morceau de verre, mais en modulant. Alors là, il s'est produit des choses qui se produisent toujours quand on peint, qui sont celles qui m'intéressent. celles qu'on ne prévoit pas et qui sont mieux que ce, qui ont autre chose que ce qu'on a prévu, quelquefois mieux, quelquefois moins bien. Mais quelquefois, qui... lorsque j'ai regardé la variation de luminosité que je voulais obtenir, avec des petits morceaux, je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Lorsque j'ai amené un grand morceau de verre à Conques, j'ai fait démonter une fenêtre et j'ai mis le verre dans la baie, un grand morceau de verre. Alors là, j'étais stupéfait. Parce que dans la partie du verre relativement où la lumière passe relativement davantage que dans l'autre partie, elle passait avec la couleur de la lumière du jour, qui est bleutée, plutôt bleue. La lumière du jour est bleue. Le ciel est bleu, d'ailleurs. Enfin, la lumière du jour est bleue. Et puis là où elle passait moins, il manquait du bleu. Donc j'avais un ton plutôt chaud, plutôt rangé. Et, il manque du bleu. Où est passé le bleu? Je suis rapidement sorti de l'autre côté. Alors là, j'étais stupéfait. Et pendant 3 minutes, j'ai été très inquiet. Je me suis dit, le bleu était de l'autre côté. Il était dans le reflet. Le bleu qui n'entrait pas à l'intérieur était dans le reflet. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Jamais on a fait ça. Jamais on a fait des vitraux visibles de l'extérieur. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais... de tout... Je me suis rétabli, alors là, ma panique. Le verre est incolore. Ce que je vois, ce n'est pas moi qui ai mis ces couleurs-là, c'est les couleurs de la lumière. C'est la couleur de la lumière que reçoivent les pierres. C'est de toute l'architecture. Ça sera toujours en accord, puisque c'est la lumière, ce que je vous révèle, c'est la lumière naturelle qui est celle qui tombe sur les pierres. Donc ça marchera toujours. Et je suis reparti rassuré. J'ai conçu tous les vitraux de cette abbatiale en fonction, enfin de cette architecture, devrais-je dire, en fonction de l'intérieur et de l'extérieur. Au fond, c'était plus 104 que j'avais à faire, c'était 208. Enfin, à peu près.
Ce que vous avez dit au cours de cette réunion de la DAP, Pierre Soulages, je cherche une lumière.
Oui.
Est-ce que ça pourrait pas être le mot d'ordre de tout votre travail, finalement?
Oui, pas la lumière, mais un certain type de lumière qui m'émeut, qui me touche, qui me... Oui, je pourrais dire ça. Je pourrais dire ça des peintures... Outre noir, c'est ce que j'ai voulu dire. Quand l'exposition que j'ai eue au musée de la ville de Paris, qui était faite par Suzanne Paget, a été, et Suzanne Paget et Jean-Louis Andral, a été baptisée Noire Lumière, je voulais l'appeler du nom que j'avais fabriqué, Outre Noir. Puis on m'a dit non, les gens ne vont pas comprendre, et ils avaient raison. Noire Lumière, les gens ont saisi qu'il s'agissait non plus du noir, mais de la lumière reflétée par les états de surface du noir. Et Noire Lumière, c'était très bien. Mais j'avais inventé le mot Outre Noir pour désigner autre chose qu'un phénomène optique. Parce que Noire Lumière désigne un phénomène optique. La lumière réfléchie par un état de surface de la couleur qui est par définition, et même pas en réalité, la plus grande absence de lumière. Qu'est-ce que c'est que le noir? C'est la couleur qui réfléchit le moins la lumière, qui est la plus grande absence de lumière. Mmh. Alors, c'est quand même toujours un peu assez bouleversant de voir de la lumière qui vient de la couleur qui est la plus grande absence de lumière. Et puis, ce que cela provoque en moi, les mouvements de ma sensibilité, de mon imaginaire, de tout ce qui m'habite quand je regarde, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai désigné par Outre Noir. Outre Noir, un autre champ mental que celui du noir. C'est comme ça que j'ai défini l'outre noir. Maintenant, on l'emploie pour désigner ces peintures-là, mais enfin, c'est plutôt pour désigner le champ mental atteint par ce type de peinture.
Le noir fait passer la lumière.
Le noir qui est une lumière très particulière, une lumière réfléchie par la couleur qui est la plus grande absence de lumière, c'est une lumière transmutée. C'est plus la même que si elle est réfléchie par du rouge, du bleu, enfin, c'est autre chose.
Il y a un mot qui ne vient pas forcément à l'esprit quand on regarde votre peinture, Pierre Soulages, c'est le mot humanisation. Et pourtant,
oui.
Le premier texte, je crois, du livre, oui. Un texte de 1948, c'est que vrai. Vous avez écrit pour une exposition à Stuttgart cette année-là, dit que la peinture, est une humanisation du monde.
Oui, je ne dirais peut-être pas les choses comme ça maintenant, mais c'est quand même, je pense ça quand même. C'est une manière de s'approprier le monde, les choses, qui est typique de ce que nous sommes en tant qu'humains. C'est la définition que je donne, tout simplement. Enfin, c'est une manière de rendre les choses qui nous entourent, de les rendre nôtres.
C'est-à-dire que ça a été votre façon, à vous, d'être un homme.
Oui. Oui, j'accepte.
Écrits et propos de Pierre Soulages, texte recueilli par Jean-Michel Lelanoux aux éditions Hermann. La rétrospective Soulages est présentée à Paris au Centre Pompidou jusqu'au 8 mars.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois le 1er et le 2 février 2010.
Words, I need some words just to explain my pain and describe my misbehave. Close, come close to me and give me something worth, something true I must believe. Why we always have so much held inside? Why does love never end? Oh, why we always go so far on the way when there's nothing to say? Saint, perto de mim, escuta aqui o que ninguém viu nem quis ouvir. Vem, vou te levar, vou te encostar, te dilacerar com esta canção.